Bien, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Alors en 2006, en fait, une annonce a été faite au niveau des médias, de la presse. On nous a dit que Pluton n'était plus une planète. Et de cette affirmation-là, en fait, est venue deux questions. La première, pourquoi? Pourquoi d'un seul coup les astronomes ont décidé que Pluton n'était plus considéré comme planète? Et la seconde, c'est finalement qu'est-ce qu'une planète? Et les deux, en fait, découlent l'une de l'autre. Et je vais remercier Jean-Louis Darlot, en fait, pour venir nous expliquer les réponses à ces deux questions-là. Et répondre à ces deux questions, eh bien, ça nous fera aussi décrire le système solaire. Et en décrivant ce système solaire, ces différentes planètes, ça sera l'occasion aussi de comparer les planètes les unes par rapport aux autres. À la fin de la conférence, même durant la conférence, si vous le souhaitez, vous pourrez intervenir, hein, s'il y a des questions, des remarques, hein, faut surtout pas hésiter. Mais de toute façon, à la fin de la conférence, il y aura un espace qui est prévu pour justement répondre à toutes ces questions-là, ayant directement attrait à ces thématiques ou sur des thématiques un peu plus éloignées. Voilà. Donc je laisse la parole à Jean-Yves Darlot. À tout à l'heure.
Merci. Bonsoir à tous. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Jean-Eudes Arlot et je suis astronome. Donc, ça veut dire que j'observe le ciel. Et en fait, je travaille plus particulièrement sur l'exploration du système solaire. Alors, l'exploration du système solaire, ça ne veut pas dire que je pars en fusée pour explorer les planètes, mais ça veut dire que je vais derrière les télescopes et que j'effectue des observations qui nous permettent de connaître ces planètes dont on ne voit que des petits points brillants dans le ciel. Quand vous regardez le ciel la nuit, vous voyez des petits points brillants, et bien ce sont des mondes complets qui ressemblent plus ou moins à la Terre et qui sont extrêmement intéressants à étudier. Alors, ce soir, vous avez vu ce titre un peu accrocheur, Pluton n'est plus une planète. Et effectivement, comme le disait Eric, pourquoi a-t-on décidé que Pluton n'était plus une planète? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez tous appris à l'école qu'il y avait 9 planètes dans cet ordre-là jusqu'à Pluton. Et tout d'un coup, on va changer ça. Et en fait, ça va être l'occasion d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une planète? Pourquoi on définit des planètes? Est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Est-ce qu'il y a des planètes? Il n'y a pas seulement des planètes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une planète? Donc voilà, on a vécu longtemps, enfin, disons pendant une cinquantaine ou une soixantaine d'années, non, oui, à peu près, 50 ans, 60 ans, dans l'idée qu'il y avait 9 planètes. Bon, et puis tout d'un coup, les astronomes se sont mêlés de choses qui finalement ne les regardaient pas, et pouf, il y en a une qui a disparu. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est que Pluton? D'ailleurs, on va s'intéresser. Pourquoi, qu'est-ce qu'on en veut à ce malheureux Pluton? Ben Pluton, c'est un corps qui est très très loin. C'était la planète la plus éloignée. En fait, non. Ce n'était pas la plus éloignée puisque de temps en temps, Neptune était plus loin que Pluton. Pluton se rapprochait plus du Soleil. Déjà, on aurait dû se douter que c'était une planète particulière puisqu'elle allait au-delà de Neptune, elle venait en deçà de Neptune. Donc, c'était déjà. On aurait pu se poser des questions avant. Donc, c'est une planète double. Déjà, c'est. Alors, la première fois qu'on a trouvé que. Entrez, venez vous mettre devant, il y a de la place, ne vous inquiétez pas. Oui, ici, là. La première fois qu'on s'est rendu compte que Pluton était double, c'est sur une image comme ça. On s'est dit, mais pourquoi ce petit point brillant a une espèce d'excroissance? Eh bien, cette excroissance, c'était un satellite qui tournait. Alors, on a vu que l'excroissance changeait de côté. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ah, c'est une planète double. Donc vous voyez, les astronomes, c'est à partir de cette petite tâche qui ne veut pas dire grand-chose qu'on en déduit ça. Voilà. Donc on est parti de là pour arriver à ça. Mais entre-temps, ça c'était en 1978, entre-temps, nos télescopes ont fait des progrès. Et maintenant, on peut observer ça dans un télescope. Ça, c'est dans le télescope spatial qui est en orbite autour de la Terre. Quand on observe Pluton, voilà ce qu'on voit. On voit Pluton, qui est le corps le plus gros, Charon, son satellite, et on voit aussi deux autres petits satellites qui tournent autour de ça. Donc on a un système quadruple, en fait. Ce n'est pas vraiment un corps avec son satellite, c'est plutôt une sorte d'astre binaire. Ce n'est même pas un objet, c'est un objet double. Donc déjà, ça, On peut se dire que ce n'est pas vraiment comme une planète, puisqu'une planète, c'est un corps assez gros qui est tout seul. Et là, on a un corps déjà qui est multiple. Donc, déjà, on peut se dire, on peut se poser des questions. Alors, pourquoi changer la définition d'une planète? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 1992, on a découvert un autre corps au-delà de Pluton. On avait nos 9 planètes. Pluton, c'était celle qui allait le plus loin possible. Et après, il n'y avait rien. Et bien, en 1992, on découvre qu'il n'y a pas rien. Il y a un nouvel objet qu'on a appelé 1992 QB1. 1992 parce qu'il a été découvert en 1992. QB désigne la semaine pendant laquelle de l'année où on l'a observé. Et 1, c'était la première observation faite cette semaine-là. Donc, on découvre un autre corps. Bon, alors on s'est dit, il y a d'autres petits objets. Et en fait, il n'y en avait pas qu'un seul corps, il y en avait beaucoup. Et maintenant, on s'est rendu compte que c'était une nouvelle ceinture d'astéroïdes. Il y a des astéroïdes entre Mars et Jupiter, ça on l'a tous appris à l'école. Eh bien, au-delà de Pluton, au-delà de Neptune, il y a une nouvelle ceinture d'astéroïdes. Alors, on ne l'avait jamais vue parce que c'est tellement loin qu'il faut des télescopes très puissants. Et puis alors, il s'est passé une nouvelle chose. On a dit, il y a 9 planètes plus une ceinture d'astéroïdes. C'est que dans cette ceinture d'astéroïdes, en 2003, on découvre des corps qui sont plus gros que Pluton. Alors là, ça ne va plus. Parce que pourquoi Pluton serait une planète alors qu'il y a des corps qui sont plus loin que lui et qui sont plus gros que lui? Donc là, on s'est posé une question. Est-ce que ce sont vraiment des planètes? Et qu'est-ce que les planètes ont en commun pour dire ce sont ou ce ne sont pas des planètes? Alors voilà déjà les planètes. J'ai mis ici les distances. En unité astronomique, une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, et c'est 150 millions de kilomètres. Donc vous voyez, on a la Terre ici, qui est donc à une unité astronomique par définition. Vous avez Jupiter qui a 5 unités, c'est-à-dire 5 fois plus loin du Soleil que la Terre. Saturne à peu près 10 fois. Uranus 20 fois, Neptune 40 fois, comme Pluton. Eh bien, en fait, on va au-delà de ça. On n'avait pas vu, et c'est maintenant qu'on explore tout ce coin-là où il y a beaucoup de monde, finalement. Alors, ça, c'est pour vous montrer comment on l'a découvert. En faisant des pauses très, très longues, on a découvert un tout petit objet qui bougeait pas vite du tout. Ce que vous voyez là qui est traîné, c'est des objets qui bougent beaucoup plus vite. Vous avez les étoiles et ces objets ne bougent pas vite du tout. Vous imaginez bien que Pluton, il met plusieurs centaines d'années à faire un tour autour du Soleil. Donc, tous ceux qui sont au-delà de Pluton mettent plusieurs siècles pour faire un tour autour du Soleil. Donc, quand on les observe dans le ciel, on ne les voit pas bouger vite. Et le mouvement qu'on voit, en fait, c'est le mouvement de la Terre. Comme la Terre bouge comme ça, très vite, eh bien, ça fait un petit effet où on voit l'objet bouger. C'est comme ça qu'on les détecte. Donc voilà, on l'a découvert. Il est très faible et c'est l'objet le plus distant puisqu'il était à 42 unités astronomiques. Rappelez-vous, Neptune, Pluton, 40 unités astronomiques. Ça, c'est les découvreurs de cet objet. Alors, toute cette ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper, parce qu'avant qu'on ait observé quoi que ce soit, il y a un astronome qui s'appelait Kuiper qui a dit « Oh, au-delà de Neptune, il doit y avoir du monde. On ne le voit pas encore, mais il doit y avoir plein d'astéroïdes. » Donc, en son honneur, on a appelé ça la ceinture de Kuiper. On connaît 1000 objets. On dit qu'il doit y en avoir 70 000. En fait, il y en a peut-être des millions. On n'en sait rien du tout. Leur distance, c'est au-delà de... Tout à l'heure, je vous ai dit 40 unités astronomiques. Et en fait, Pluton, comme je vous l'ai dit, il revient plus près du Soleil que Neptune. Donc, il y en a beaucoup qui font ça, qui sont tous au-delà de Neptune, mais qui reviennent de temps en temps parce qu'ils ont une orbite excentrique, ce n'est pas une orbite circulaire. Donc, ils reviennent près du Soleil, donc entre 30 et 50 unités astronomiques. Peut-être un peu plus, mais enfin, pour l'instant, disons qu'on va garder ça. Alors, c'est ce qu'on appelle des fossiles de la période de formation du système solaire, parce que vous comprenez que depuis la formation du système solaire, ils n'ont pas beaucoup bougé, ils n'ont fait presque rien, ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup de tours. Et donc, c'est vraiment des témoins de notre origine. Alors, on se pose aussi des questions. C'est que les comètes, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Eh bien, en fait, elles doivent venir de cet endroit-là. Parce que ces objets, quand ils se cassent en morceaux, quand il y a des tout petits morceaux, il y a probablement beaucoup de glace, et c'est eux qui nous fabriquent les comètes qui viennent nous voir. On suppose, hein, pour l'instant on est sûr de rien, mais il est très probable que ce soit la source des comètes qui reviennent très régulièrement. Voilà, donc maintenant notre vision du système solaire, c'est ça, les planètes intérieures, les grosses planètes, et au-delà, une nouvelle ceinture d'astéroïdes qui est probablement beaucoup plus riche que celle qui est entre Mars et Jupiter, ne serait-ce que parce que Pluton et les autres sont quand même très gros. On n'a aucun astéroïde ici qui soit aussi gros que Pluton et ceux qu'on a découverts. Donc c'est quand même tout à fait particulier. Alors revenons sur celui qui est le plus gros que Pluton. Alors il va au maximum à 67 unités astronomiques de la Terre, du Soleil, et il se rapproche du Soleil à 38. Donc vous voyez, il a une orbite qui n'est pas du tout circulaire. Il va loin et il se rapproche. Et il a un rayon de 1400 km, ce qui est quand même assez gros. Du moins qu'on l'a estimé, parce que rappelez-vous, à des distances pareilles, il faut des télescopes puissants et on ne voit pas grand-chose à part un tout petit point brillant. Mais comme on suppose qu'ils sont faits de glace, on peut en déduire à peu près une taille approximative. Et celui-là, il aurait même un satellite qui tournerait à 36 000 km. Alors, la surface, il y a de la glace, il y a du méthane, donc c'est des astres qui sont très très froids. Le Soleil apparaît comme une étoile brillante, certes, je dirais un peu comme la Lune vue de la Terre, mais pas plus brillant que ça. Il est tellement loin qu'il est un petit peu comme ça. Et en fait, pour voir des changements saisonniers, puisqu'il y a des saisons, il ne présente pas toujours la même face au Soleil, du moins il s'incline aussi, donc il y a des saisons sur ses corps, mais il faut attendre 250 ans, évidemment, avant de voir un changement de saison tellement la rotation est lente. Donc on essaye de comprendre ce que c'est que ces corps, mais vous voyez que ce n'est pas facile, ils sont loin et ils ne vont pas vite. Alors qu'est-ce que c'est qu'une planète ? Avec quels critères on va pouvoir définir une planète ? Est-ce que c'est la taille ? On dit à partir d'un certain diamètre, pan, c'est une planète. Est-ce que ça vient de son orbite ? Elle tourne de telle ou telle manière, c'est une planète ou ce n'en est pas une ? Elle a une atmosphère ? Ah, peut-être que ça peut être un critère, ça. Sa composition, c'est fait de quoi ? D'eau, de glace, de roche, de gaz ? La nature de la surface ? Est-ce qu'on peut marcher sur une planète ? Est-ce que c'est un liquide ? Donc vous voyez, c'est tout un tas de critères. Et est-ce que ce sont ces critères-là qui vont nous définir une planète ? Et donc, exclure Pluton. Alors l'ancienne classification des planètes, c'était... Elles sont neuves, leur découverte est historique. Entrez, venez vous mettre ici, il y a de la place. Leur découverte est historique, c'est-à-dire qu'on les a découvertes petit à petit. Il y a celles qu'on voit à l'œil nu, puis celles qu'on a découvertes avec des télescopes petit à petit. Jusqu'à présent, le critère de la taille était quand même retenu. C'était quelque chose de gros, une planète. Et on a supposé Pluton beaucoup plus gros qu'il n'est dans la réalité. Par contre, elles sont très diverses. Vous avez la Terre qui est tellurique, c'est de la roche. Vous avez Jupiter, c'est du gaz. Donc la nature, apparemment, c'est pas ça qui va les caractériser. Et elles sont bien rondes, toutes ces planètes. Pourquoi elles sont rondes ? Tout simplement parce qu'elles sont grosses. Une planète qui est grosse, qu'est-ce qui se passe ? Il fait chaud à l'intérieur. Il n'y a pas besoin que ce soit très gros pour qu'il fasse chaud à l'intérieur. Si vous prenez une montagne, par exemple, et que vous prenez un tunnel à l'intérieur d'une montagne, comme le tunnel du Mont-Blanc ou le tunnel du Saint-Gothard, des très grands tunnels, quand vous êtes au centre du tunnel, il fait chaud. Alors que quand vous allez dans votre cave, il fait froid. Donc vous pourriez vous dire, quand je suis à l'intérieur de la montagne, je vais avoir très froid. Eh bien non, il fait très chaud. Et il fait très chaud parce que vous avez le poids de la gravitation de la roche qui est au-dessus de vous, qui chauffe. Donc vous comprenez que si vous prenez un astéroïde qui fait 200 km de diamètre, c'est bien plus gros que les 4000 mètres du Mont Blanc. Donc il fait très chaud à l'intérieur. Et si vous le grossissez encore, il fait tellement chaud que ça fait fondre les roches qui sont au centre. Et si ça fond, ça devient liquide. Et si ça devient liquide, ça fait une goutte et c'est donc une sphère. Donc vous avez une goutte d'eau dans l'espace, ça fait une sphère. Donc là, vous avez des corps qui sont tellement chauds à l'intérieur, qui sont mous. Vous savez que la Terre, il n'y a pas besoin d'aller loin pour trouver du magma en fusion. c'est tout simplement la gravitation qui fait que c'est chaud, et donc c'est rond. Et vous voyez, tous ces objets sont ronds. Donc ça, c'est aussi un critère. Elles sont bien rondes, ça veut dire qu'elles ont fondu. On appelle ça une structure différenciée, puisque si l'intérieur a fondu, ce qui est plus lourd est au centre. Vous savez qu'au centre de la Terre, il y a un noyau de fer et de nickel. Et ce qui est en surface est plus léger. Bon, quand on vous dit que les roches, comme le granit, c'est ce qu'il y a de plus léger, là, vous dites, faut peut-être pas exagérer. Mais si, à côté du fer et du nickel, c'est quand même plus léger. Donc c'est pour ça que c'est en surface. Donc toutes les planètes ont exactement, enfin tous ces gros corps, n'ont pas encore le nom de planète, du moins on donne le nom de planète dans l'ancienne classification, tous ces gros corps ont fondu, et donc ça fait une espèce de goutte avec quelque chose de lourd à l'intérieur et de léger en surface. Alors à côté des planètes, on définit aussi les satellites. Ben, un satellite, c'est pas compliqué, c'est quelque chose qui tourne autour d'une planète. Attention, le centre de gravité du système est à l'intérieur de la planète. Si on a deux corps de même taille, ce n'est pas une planète et son satellite, c'est un astre double. Pour que ce soit une planète et son satellite, il faut que le centre de gravité soit à l'intérieur, entre la Terre et la Lune, le centre de gravité est à l'intérieur de la Terre. Par contre, les satellites sont très divers, puisque si on prend Ganymède, qui est un satellite de Jupiter, et bien il est plus gros que Mercure, il est plus gros que la planète Mercure. Donc vous voyez qu'un satellite, c'est juste parce qu'il tourne autour d'une planète. Vous avez la Lune, ici vous avez les satellites de Jupiter vus dans une petite lunette, et ici vous avez un champ d'étoiles, et bien, au milieu de ce champ d'étoiles, il y a un petit corps, là, ben, c'est un satellite de Jupiter, parce que Jupiter est loin, alors lui il se promène dans l'espace, et puis on le voit comme ça, au milieu des étoiles. C'est un tout petit caillou d'ailleurs. Voilà les satellites de Mars, donc vous voyez, c'est des choses qui sont pas rondes, parce que ça n'a pas assez chauffé. Ça a chauffé un peu, mais pas suffisamment pour faire une espèce de goutte. Voilà, donc vous avez les satellites de Mars qui tournent assez proche de Mars. Les satellites de Jupiter, comme je vous ai dit, Ganymède, il est plus gros que Mercure. Alors tous ces corps-là ont fondu à l'intérieur. Et alors lui, il est même, ça c'est Io, très très chaud, avec des volcans très importants qui vont à plusieurs centaines de kilomètres, qui envoient leur lave à plusieurs centaines de kilomètres dans l'espace. Vous avez Europe, qui est très intéressant, parce qu'il y a une banquise à la surface, avec probablement un océan en dessous, donc possibilité de vie. Et vous avez beaucoup d'eau. Tout ce qui est blanc, c'est des sortes de volcans, c'est de la glace qui sort du sous-sol. Donc vous voyez un type de volcan qu'on n'a pas l'habitude sur Terre, puisque c'est de la glace qui sort, comme la lave sort de nos volcans. Donc vous voyez, les satellites de Jupiter, ce sont des mondes tout à fait à part. Ce ne sont pas des planètes, puisqu'ils tournent autour de Jupiter. La même chose pour les satellites de Saturne, où il y a beaucoup d'eau sur les gros. Et puis, alors les petits, bah, c'est comme les satellites de Mars, c'est des gros cailloux qui n'ont pas encore eu le temps de... il faudrait s'agglomérer, il faudrait qu'il y en ait plus de masse pour qu'ils deviennent ronds. Alors vous avez aussi des tout petits satellites de Saturne qui... entretiennent l'existence d'anneaux très fins autour de Saturne. Donc vous voyez, là vous avez un anneau de Saturne, et vous avez ici deux satellites qui confinent l'anneau et lui gardent sa netteté, comme ça. Donc c'est un phénomène gravitationnel qui entretient. Donc vous voyez, des satellites encore complètement différents, ce sont des petits cailloux, et ils ont un rôle important autour de Saturne. Alors, à côté des planètes et des satellites, dans cette ancienne classification, on avait les astéroïdes. Alors, les astéroïdes, là, vous avez une carte, vous avez le Soleil au centre, les planètes Mercure, Mars, la Terre, Vénus, ici, Jupiter, là, et entre Mars et Jupiter, il y a toutes ces astéroïdes qui sont là. Alors, ils sont plus proches de Mars que de Jupiter, parce que Jupiter a tendance à les avaler et à faire la place autour de lui. Donc voilà cette première ceinture d'astéroïdes. Et dans l'ancienne classification, on ne connaissait que ça, que ces astéroïdes. Alors, ils sont pas très gros, donc ils sont pas ronds. Donc vous en avez un, ce que j'ai mis en haut à droite, qu'on appelle Géographos, qui a vraiment une forme allongée. Et on s'est aperçu, alors ça c'est par radar qu'on a eu cette forme, mais avant d'avoir été sûr qu'il avait cette forme-là, on le savait, tout simplement parce que quand on l'observait qui bougeait, vous voyez là vous avez une succession de photographies qu'on a mis les unes à côté des autres, et vous voyez que tout d'un coup il s'éteint. Il s'éteint parce que tout simplement, quand vous le voyez par le bout, comme ça, vous ne voyez pas beaucoup de lumière. Puis quand il tourne comme ça, il éclaire beaucoup plus. Donc c'est sa variation très forte de luminosité qui nous a fait comprendre qu'il n'était pas rond du tout. Et c'est le cas de la plupart des astéroïdes. Donc voilà, on a envoyé des sondes spatiales qui ont pris des photos de ces corps. Et là, maintenant, on sait effectivement que ce sont des cailloux qui sont en général allongés. C'est assez étonnant, mais la plupart sont allongés. Alors que quand vous regardez des cailloux sur une route, ils ont de toutes les formes, mais les astéroïdes sont plutôt allongés. Donc pourquoi ? Sans doute les chocs dans l'espace qui font ça. Alors ces astéroïdes ont des satellites, et on a observé que beaucoup d'astéroïdes étaient doubles. Vous voyez là, c'est deux objets, grâce aux nouvelles techniques d'observation. On arrive à voir ces choses-là, de voir que ce sont des systèmes binaires ou même triples. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup d'objets. Donc un astéroïde, c'est un caillou, mais il peut y avoir plusieurs cailloux qui tournent les uns autour des autres. Quand on regardait jusqu'à présent dans un télescope, on voyait qu'un point lumineux, parce qu'ils étaient trop proches. Mais avec les nouvelles techniques, on se rend compte qu'en fait, ils sont un petit peu plus... un peu plus séparés comme ça. Il y a toutes sortes d'ailleurs, mais en général là c'est binaire, vous voyez, ils ont la même taille, alors que là il y a un gros et un petit, comme ici il y a un gros et un petit, là aussi un gros et un petit, donc il y a un petit peu de tout. Donc voilà les satellites d'astéroïdes. Les comètes maintenant. Alors qu'est-ce que c'est qu'une comète? Une comète, c'est un corps lumineux qu'on voit dans le ciel avec une chevelure, une queue derrière. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ces objets? D'abord, les comètes, on les voit que de temps en temps. C'est-à-dire, vous n'avez pas tous les ans une comète qui revient. Pas du tout. Pourquoi? Parce que les comètes, elles ont une orbite excentrique. C'est-à-dire qu'elles s'éloignent beaucoup du Soleil et elles reviennent passer très près du Soleil. Et quand elles passent près du Soleil, elles passent souvent près de la Terre, parce que la Terre, on n'est pas très loin du Soleil. On est à une unité astronomique. N'oubliez pas, Jupiter 5, Pluton 40. Donc, on voit de temps en temps passer une comète. Alors, pourquoi ces comètes ont-elles cette chevelure derrière elles? Tout simplement parce que c'est des corps glacés, donc ils viennent de loin, puisqu'il y a de la glace. Et cette glace, quand elle s'approche du Soleil, elle s'évapore. Et comme ces corps sont très petits, la gravitation ne peut pas retenir l'évaporation de la glace. En fait, la Terre pourrait être une comète si elle était beaucoup plus petite, puisqu'il y a de l'eau. Quand le Soleil fait évaporer l'eau, c'est ce qui se passe ici. Mais sur la Terre, le Soleil fait évaporer l'eau, mais la gravité la fait pleuvoir. L'eau revient. Elle ne s'en va pas dans l'espace parce que la Terre est trop grosse pour que l'eau s'en aille. En plus de ça, la Terre est toujours à la même distance du Soleil. Donc si l'eau avait dû s'évaporer, il n'y en aurait plus. Alors que les comètes, elles viennent d'un endroit où le Soleil ne chauffe pas. Donc elles ont beaucoup d'eau qu'elles ont gardée. Et au fur et à mesure qu'elles approchent du Soleil, elles émettent, la glace se sublime et ça fait ses chevelures. Alors ça, c'est une comète qu'on est allé bombarder. Ça, c'est une drôle d'idée. Mais enfin, on a envoyé une sonde spatiale qui a envoyé une bombe sur une comète pour voir ce que ça faisait. Vous allez dire qu'on est un peu curieux, mais bon, comme ça. Et on a vu que finalement, quand on faisait un trou dans la comète, il y avait beaucoup de glace en dessous et ça augmentait la chevelure. Ça l'augmente. Il y a beaucoup plus d'eau qui sort parce que c'est un mélange d'eau et de roche, une sorte de boue. Et donc, quand il y a le soleil, l'eau s'évapore, il ne reste plus que la roche. Et si l'eau qui est sous la roche n'est pas chauffée, elle reste. Donc, si vous grattez un petit peu, eh bien, l'eau va apparaître et hop, elle va se sublimer et s'évaporer aussi. Alors, on a vu aussi des comètes qui se cassaient en petits morceaux et chaque petit morceau fait une nouvelle comète. Donc, ça, c'est l'ancienne classification, puisque maintenant, ça n'existe plus. Mais dans l'ancienne classification, on avait les comètes. C'était ces corps qui venaient de temps en temps. Alors, comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est qu'elles ont une orbite excentrique. Elles s'approchent et elles s'éloignent du Soleil. Et elles sont très petites. Si elles sont grosses, ça ne marche pas, puisque la gravité va empêcher l'eau, la glace, de se sublimer. Alors, revenons à notre idée de classement. Alors là, j'ai fait deux colonnes, j'ai mis les objets ici, et j'ai mis le diamètre en kilomètres. Et j'ai mis en blanc ce qu'on appelle les planètes dans l'ancienne classification. Vous voyez que Évidemment, c'est le Soleil le plus gros, mais vous avez Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, la Terre, Vénus et Mars qui arrivent vraiment en tête, donc les planètes sont vraiment les corps les plus gros. Ah, Mercure arrive derrière Ganymède et Titan. Mercure. Et puis vous avez encore d'autres objets. Vous avez le fameux gros Pluton qu'on a découvert près de Pluton, et Pluton n'arrive qu'ici. Donc effectivement, Pluton, il est quand même loin dans la liste. Donc ça peut peut-être se comprendre qu'il ne soit pas une planète. Alors, essayons une autre classification. Par la masse, parce qu'il est le plus lourd, on va retrouver encore nos 8 planètes ici, et Pluton arrive très loin dans la liste. Donc vous voyez que quand même, l'idée que Pluton ne soit pas une planète, ce n'est pas complètement ridicule, parce que Pluton n'est pas vraiment comme les autres. Les autres, elles arrivent toutes ici, et Pluton arrive assez loin. D'ailleurs, même les autres objets près de Pluton, c'est pareil, ils sont quand même assez loin, ils ne sont pas lourds du tout. Alors maintenant, on va essayer de trouver d'autres critères, mais d'abord, il y a les planètes telluriques, Mercure, Mars, Vénus et la Terre, ces fameuses quatre planètes qui sont proches du Soleil et qui se ressemblent. Vous voyez, la Terre et Vénus, même taille. Bon, Mars et Mercure, plus petits, et c'est tellurique parce que c'est des roches, puis c'est dense. C'est pas lourd parce que c'est petit, mais c'est très dense. Il y a du métal, il y a de la roche. Donc, ces quatre corps, eux, ils font vraiment partie de la même famille. On peut les appeler planètes telluriques. Alors, on va essayer de voir les critères sur ces corps-là. Par exemple, quand vous voyez un paysage comme ça, vous vous dites, c'est Mars ou la Terre ? Et quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est Mars ou la Terre ? Voilà. Donc là, c'est la Terre. Et là, c'est Mars. Pourtant, là, il y a quand même des traces de pas. Hein. Alors bon, on voit ça. La couleur, c'est à peu près la même chose. C'est le ciel qui est un petit peu plus rose ici que là où il est un petit peu plus bleu. Ça, c'est le désert d'Atacama au Chili. Donc, c'est des pierres. C'est exactement la même chose. Donc, vous voyez, ça dépend où on prend une photo sur une planète. On peut dire, oui, celle-là, ces deux-là, elles se ressemblent. Elles se ressemblent, oui, quand on regarde un certain endroit. Mais ailleurs, si on est au milieu d'un océan, là, c'est plus du tout la même chose. Ah, vous voyez, Mars, il y a quand même du vent, puisque les objets qu'on a posés ont filmé des petites tornades à la surface de Mars, comme ça. Donc, c'est un désert. Et puis, il y a du vent. Il y a du vent, comme sur la Terre. Comme l'atmosphère est très légère, les vents sont beaucoup plus puissants que sur la Terre. Alors, sur Mars, ça ressemble aussi beaucoup à la Terre. Quand vous voyez un ravinement comme ça, vous vous dites, sur la Terre, il y a des ravinements comme ça dans les montagnes. Et puis quand vous voyez ça, vous vous dites, oui, c'est vrai, c'est la calotte polaire de Mars, près du pôle Nord, il y a des coins qui sont comme ça, c'est de la glace. Donc c'est vrai que là, vraiment, c'est des corps qui se ressemblent beaucoup, donc on comprend très bien qu'on puisse les mettre dans la même catégorie. Maintenant, l'atmosphère. Oublions Mercure qui n'a pas d'atmosphère, mais Vénus, la Terre et Mars ont chacune une atmosphère. Alors Vénus, une atmosphère très épaisse, avec des nuages d'acide sulfurique, du gaz carbonique. La Terre, une atmosphère moins épaisse, mais avec de la vapeur d'eau. On verra la composition tout à l'heure. Et Mars, c'est une atmosphère très ténue, avec beaucoup de poussière qui se promène dans l'atmosphère. Donc on a trois atmosphères, une très épaisse, une moyenne et une très, très faible, très légère. Mais on va quand même retrouver des atmosphères sur ces trois corps. Alors, si on fait la comparaison de la distance au Soleil, vous voyez, 100 millions, 150 millions, 228 millions, donc c'est trois planètes qui sont pas loin du Soleil. L'inclinaison de l'orbite, ça, c'est par rapport au plan de l'orbite de la Terre. Vous voyez que Vénus et Mars, 3 degrés, 1 degré, c'est pas grand-chose. Donc, ces trois planètes tournent à peu près dans le même plan. Excentricité de l'orbite, c'est-à-dire est-ce qu'elle s'éloigne et se rapproche du Soleil ou est-ce qu'elle tourne d'une manière circulaire autour du Soleil ? Vous voyez, c'est des nombres très faibles. C'est quasiment des orbites circulaires. Donc on retrouve beaucoup de choses qui se ressemblent. Le rayon, Vénus et la Terre, c'est quasiment la même chose. Mars est plus petite, oui, c'est vrai. Bon, et alors, la pression atmosphérique à la surface, vous voyez que Vénus, 92 atmosphères, la Terre, une atmosphère, et Mars, un centième d'atmosphère, disons. C'est différent, c'est effectivement très différent, mais enfin, il y a une atmosphère dans tous les cas. Alors, la composition, on va retrouver la même chose sur Vénus et Mars, du gaz carbonique, en majorité. Il y en a très peu sur la Terre. Par contre, on trouve beaucoup d'azote sur la Terre et de l'oxygène, évidemment, qui nous permet de vivre. Mais c'est quand même quasiment 80% d'azote. Donc, de l'oxygène sur Vénus et Mars, on en trouve très peu. Et de la vapeur d'eau, c'est pareil, il y en a surtout sur la Terre. Ailleurs, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, ces trois planètes, vraiment, c'est des planètes sœurs. Et Mercure, ben Mercure, j'en parle pas, parce que elle a une orbite excentrique, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne et se rapproche du Soleil relativement beaucoup. Elle n'a pas d'atmosphère. Bon, elle a une orbite inclinée de 7 degrés, c'est pas énorme. Mais enfin, Mercure, elle est un petit peu à part. Donc, nos trois planètes-là, vraiment, c'est trois planètes qui, évidemment, auraient pu avoir de la vie à leur surface, toutes les trois. Il se trouve qu'il n'y a que la Terre. Alors, vous allez me dire, bah oui, il y a de la vie sur la Terre parce qu'elle est à la bonne distance. Vénus est trop près et Mars trop loin. C'est faux, c'est faux. La distance a peu d'importance et en fait, c'est d'autres raisons qui font que la vie n'est apparue que sur la Terre. On pourrait dire baptiser planète les endroits où il y a de la vie, mais alors là, il n'y aurait pas beaucoup de planètes dans le système solaire. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi la vie est apparue sur la Terre. Enfin, non, je ne veux pas aller si loin que ça, mais pourquoi la vie est facile sur la Terre et qu'elle est difficile sur les autres planètes, Vénus et Mars. D'abord, quel est le flux de chaleur reçu du Soleil? Alors là, c'est ce que j'ai mis en haut, c'est lié à la distance au Soleil. Donc Vénus, qui est proche du Soleil, reçoit 2600 watts par mètre carré, ça fait 2,5 kW. La Terre, 1,4 kW à peu près, et Mars, seulement 594 watts par mètre carré. C'est normal, puisque le flux reçu du Soleil est d'autant plus faible que la planète est plus loin. Quel est le flux qui arrive vraiment à la surface? Ah bah oui, c'est différent, puisqu'il y a des nuages qui vont empêcher le rayonnement d'arriver au sol. Vénus, beaucoup de nuages, il n'arrive que 367 watts par mètre carré. La Terre, il y a des nuages, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais quand même, il n'arrive que 842 watts par mètre carré. Et Mars, bah, il y a des nuages, mais très très peu. Donc la différence est très faible. Ce qui arrive à la surface, c'est quasiment ce que le Soleil envoie. Donc vu ce flux, quelle devrait être la température à la surface des planètes? Eh bien, vu le flux qui arrive à la surface de Vénus, la température devrait être de moins 43 degrés. Vu le flux qui arrive à la surface de la Terre, la température devrait être de moins 20, et sur Mars, de moins 61 degrés. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que sur Vénus, la température est de plus 462 degrés, sur la Terre, de plus 15 en moyenne, et sur Mars, de moins 55. Alors pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement que sur ces trois planètes, l'atmosphère crée ce qu'on appelle un effet de serre. Et sur Vénus, où il y a très peu de flux qui arrivent, l'atmosphère est tellement épaisse qu'elle retient la chaleur et chauffe jusqu'à 462 degrés. Donc vous voyez que là, les températures, seules sur la Terre, la température est favorable à la vie. Mais quand vous voyez ces températures-là, vous vous rendez compte que si l'atmosphère avait été correcte sur Vénus et sur Mars, eh bien, elle aurait pu nous amener vers une température comme ça aussi. Donc en fait, ce n'est pas du tout la distance au Soleil qui va déterminer la vie, c'est tout simplement l'atmosphère qui crée cet effet de serre. Alors qu'est-ce que c'est que cet effet de serre? On va en parler un petit peu, puisqu'on en est là. Sur Vénus, bon, on a un enfer, 460 degrés, des pluies d'acide sulfurique, donc oublions toute possibilité de vie à la surface de Vénus. Ben, l'effet de serre, c'est que tout simplement le rayonnement solaire qui arrive au niveau du sol, bah, il est renvoyé par le sol. Le sol réfléchit la lumière, mais l'atmosphère stocke cette chaleur. Alors, ça s'appelle l'effet de serre, puisque quand vous mettez une serre avec des vitres et que vous mettez des plantes à l'intérieur, bah, vous remarquez que même en hiver, il fait relativement chaud dedans. Donc, ça fait exactement le même effet, mais il n'y a pas une vitre en haut de l'atmosphère terrestre. Ce sont les gaz eux-mêmes qui font ça. Et ça dépend des gaz de l'atmosphère. Donc si on change sur Vénus, l'atmosphère est en fait de gaz carbonique quasiment exclusivement, l'effet de serre est très fort. Sur la Terre, il y a peu de gaz carbonique, donc l'effet de serre est plus faible. Et sur Mars, il y a très peu d'atmosphère, mais c'est du gaz carbonique, donc il y a quand même un petit effet de serre. Donc voilà ce fameux effet de serre qui permet de réchauffer l'atmosphère. Alors, une petite parenthèse, qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Quand vous avez de la neige, que c'est blanc, eh ben, quand le soleil frappe, eh ben, il ne fait pas fondre la neige, du moins très peu, il se réfléchit parce que c'est blanc, et tout simplement, la Terre ne se chauffe pas. Donc si vous avez une surface complètement blanche, indépendamment de l'atmosphère, ça ne chauffe pas. Et si vous avez une surface complètement noire, eh bien ça chauffe, puisque le noir va absorber la chaleur. Donc il ne faut pas non plus négliger ce problème de la réflectivité des sols. Alors la Lune, elle est très sombre, donc elle absorbe beaucoup. Et la Terre, ça dépend où on est, évidemment. Au pôle, il fait froid, il fait d'autant plus froid que comme c'est blanc et glacé, le Soleil a beaucoup de mal à chauffer. Alors ça, c'est pour vous dire justement, pour vous montrer ce qu'on s'est rendu compte actuellement, c'est que tout simplement, la densité en gaz carbonique augmente actuellement, depuis 1800. Elle augmente, donc on est en train de modifier la teneur en gaz carbonique et en méthane. Ne pas oublier le méthane, qui est un gaz à effet de serre. Actuellement, cette teneur augmente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur la Terre n'est plus en équilibre thermique. C'est tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? La Terre va rechercher son équilibre thermique. Et quand on recherche un équilibre, il y a un effet de balancier. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on n'en sait rien. On appelle ça le réchauffement climatique, mais on ne sait pas ce qui va se passer. La Terre va rechercher son équilibre thermique. On augmente le gaz carbonique dans l'atmosphère, l'effet de serre va changer. Quand vous allumez le gaz sous une casserole d'eau, la casserole va rechercher son équilibre thermique. En général, si vous laissez le gaz longtemps, il n'y a plus d'eau dans la casserole quand on arrive à l'équilibre thermique. Sauf si vous le mettez très très bas, où finalement l'équilibre thermique va arriver plus tôt que prévu. Mais dans le cas de la Terre, il va y avoir un effet de balancier, et ça, c'est un petit peu le mystère. Alors bon, est-ce qu'on va se rapprocher de Mars ou de Vénus ? Ça, on ne sait pas. Ça, c'est tout ce que les futurologues nous ont prévu, mais en fait, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici que les précipitations vont changer. Là où c'est bleu, elles vont augmenter, et là où c'est rouge, elles vont diminuer. Donc vous pouvez remarquer que la France est à la limite. Donc déjà, pour savoir ce qui va se passer, ce n'est pas très facile. Mais il y a une chose intéressante, et c'est quelque chose qu'on observe dès maintenant, c'est que s'il y a plus de précipitations au nord de l'hémisphère nord, n'oubliez pas que là où il fait froid, c'est de la neige qui tombe, ce n'est pas de l'eau. Donc si vous avez beaucoup de neige qui tombe sur la Terre, ça va avoir un effet de la refroidir. Donc en fait, à défaut de réchauffement climatique, peut-être que cette recherche de l'équilibre thermique va faire que la Terre va se refroidir et que dans certaines régions, on va avoir beaucoup plus froid qu'avant. Donc la Terre recherche l'équilibre thermique. Comment ? On verra bien, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors que Vénus, Mars et la plupart des corps sont en équilibre thermique. Bon, actuellement, on étudie un satellite de Jupiter qui s'appelle Io parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas en équilibre thermique. Donc on essaye de voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà pour les planètes telluriques. Maintenant, on va parler des grosses planètes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nos quatre, vous voyez, elles sont toutes petites et tout d'un coup, on va vers de très grosses planètes. Alors ces grosses planètes, vous voyez, Jupiter et la Terre à l'échelle. Donc vous voyez que là, on n'est plus du tout dans la même échelle et pourtant, les deux, ce sont des planètes. Mais alors là, c'est des planètes telluriques et ça, qu'est-ce que c'est que ce gros machin-là ? En fait, on ne sait pas trop, mais c'est du gaz. C'est surtout de l'hydrogène. C'est très léger. C'est très léger. C'est une très faible densité, mais c'est tellement gros, évidemment, que c'est plus lourd que la Terre. Alors, ce qu'on voit là, c'est des nuages, en fait. C'est des nuages qui sont agités de tornades, de cyclones. On a énormément de nuages comme ça, mais c'est principalement de l'hydrogène. Comment c'est à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a un noyau métallique au centre ? Ça fait partie des mystères qu'évidemment, on n'a pas encore réussi à résoudre parce qu'on observe évidemment que la surface. Alors, si on compare, ben, vous avez nos quatre grosses planètes, vous avez la distance au Soleil en kilomètres, donc vous voyez, ben, c'est pareil, Jupiter est le plus proche et Neptune est la plus loin. Vous pouvez remarquer que les orbites sont aussi toutes dans le même plan, comme la Terre. Donc, alors là, on va retrouver des caractéristiques communes entre nos quatre planètes telluriques et nos quatre planètes gazeuses, c'est que tout ce monde-là est dans le même plan. Déjà, elles ont quelque chose en commun. L'excentricité, très faible. Orbites circulaires, elles sont toujours à la même distance du Soleil. Par contre, la taille, la masse, vous voyez, ça c'est en masse de la Terre, bah, vous voyez, même Neptune, même Uranus qui est la plus petite, c'est quand même 14 fois la masse de la Terre. Alors la pression atmosphérique, ça c'est difficile de dire parce que c'est au niveau des nuages, donc on ne se rend pas bien compte de à quoi ça correspond. Alors de quoi c'est fait? C'est de l'hydrogène, 90%, 97%, 83% et 74%. Alors l'hélium, qui est un gaz un petit peu plus lourd que l'hydrogène, on va en trouver surtout sur Uranus et Neptune. Alors le méthane, on en voit à la surface. Ces belles couleurs que vous avez à la surface de Jupiter, c'est dû à des molécules assez complexes issues du méthane qui donnent ces couleurs-là. Mais c'est de l'hydrogène, hein, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et la température, bon, évidemment, c'est froid, mais c'est un petit peu normal, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc Pluton, qui est à 6 milliards de kilomètres du Soleil, ça varie entre 6 milliards et 4 milliards. Donc vous voyez que Pluton, il va et il vient. Donc ce n'est pas du tout comme les autres. Une inclinaison de 17 degrés sur le plan, ce fameux plan de rotation de toutes les planètes. Donc vous voyez, déjà Pluton, il se caractérise. Donc effectivement, on a trouvé 4 planètes telluriques, 4 planètes gazeuses, et puis Pluton, il est un petit peu en dehors de tout ça. Alors planète tellurique, gazeuse, on en a 8. Alors est-ce que c'est vraiment seulement ces corps-là, les planètes? Elles ne se ressemblent pas, mais il y a quand même des caractères fondamentaux. Alors on va essayer de voir le côté historique de la chose. D'abord le côté historique par rapport à l'homme qui découvre ça. Et il va aussi y avoir un côté historique dans l'histoire du système solaire, puisque le système solaire, il s'est construit petit à petit. Donc ces deux histoires vont peut-être nous éclairer sur la notion de planète. Alors dans l'Antiquité, on a 7 planètes. Le mot planète veut dire en grec astre errant. Parce que quand vous regardez le ciel, vous avez les étoiles qui ne bougent pas. Et puis, de temps en temps, vous voyez Vénus, vous voyez Jupiter, vous voyez pendant une saison, mais après, elle s'en va. Donc, elle bouge parmi les étoiles. Donc, on a appelé ça des astres errants, planètes. Alors, dans l'Antiquité, il y en a combien des planètes? Qu'est-ce qui bouge dans le ciel? Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Le Soleil, évidemment, on le voit bien. La Lune, on la voit très bien aussi. Mercure, oui, on la voit près du Soleil. Vénus, oui, on la voit très bien. Mars aussi. Puis Jupiter et Saturne. Donc c'est tout ce qu'on voit à l'œil nu, en fait. Alors on avait une vision du monde très simple. La Terre est au centre. Et puis il y a tout ça qui tourne autour de la Terre. Alors, vous avez des distances, là. Mais les distances, ce qui va le plus vite, c'est ce qui est le plus proche. Hein, c'est tout. C'est comme ça qu'ils ont défini les distances. La Lune, c'est ce qui va le plus vite, donc c'est ce qui est le plus proche. Et puis Saturne, c'est ce qui va le plus lentement, donc c'était celle qui était la plus loin. Donc voilà la vision dans l'Antiquité, par Aristote, du ciel. On a 7 planètes. Alors, parmi les 7 planètes, il y a le Soleil. Alors, vous pouvez voir que dans tous les pays, donc, il était identifié à une divinité, Hélios chez les Grecs, Sol chez les Romains, effectivement, c'est ça qui nous intéresse, puisque Sol a donné Soleil, Sun, Sunday, et Hélios a donné héliocentrique. Vous voyez, donc, le Soleil, ce n'était pas une divinité parmi les plus importantes. Je ne sais pas pourquoi, parce que le Soleil, il est quand même important, mais ce n'était pas la divinité la plus importante dans l'Antiquité. La Lune. Oui, la Lune. Alors la Lune, on va trouver la même chose, sauf que c'est de temps en temps une divinité masculine, de temps en temps une divinité féminine. On va retrouver ça. Et Sélénée en grec va donner sélénographie. Et Luna va donner lundi, lune en latin. Donc vous avez cet astre qui était donc parmi les premières planètes. Mercure, alors Mercure... Effectivement, Mercure le scintillant, ça reste longtemps ce terme. Il va vite, c'est celle qui va le plus vite autour du Soleil. Donc on va retrouver dans toutes les civilisations, c'est quelque chose qui va vite, c'est un messager. c'est un messager en scintillant, parce que ça varie très très vite. Vénus, alors Vénus, c'était plutôt le porte-flamme. Vous remarquez que Vénus, c'est quand même la planète la plus brillante. La plus belle aussi, donc on va l'identifier à Vénus, à Aphrodite, parce que c'est le plus brillant, le plus éclatant dans le ciel. Alors, il faut aussi distinguer que Vénus, on la voit soit le soir, soit le matin. Il a fallu quand même longtemps pour que les anciens se disent c'est la même qu'on retrouve le soir et le matin. Mais pendant longtemps, c'était deux planètes différentes. Il y avait la planète du soir et la planète du matin. C'était dans les deux cas Vénus, mais elle avait deux noms différents. Mais après, on a compris qu'elle revenait. Voilà pour Vénus. Quant à Mars, Mars rouge, donc la guerre, on va retrouver dans toutes les civilisations cet astre rouge qui revient, qui est le dieu de la guerre, que ce soit chez les Romains, chez les Grecs ou un petit peu partout. L'étoile de feu, vous voyez, on va retrouver ça. Alors Jupiter, qui est assez brillant, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On retrouve aussi, alors effectivement, chez les Grecs et chez les Romains, c'est le dieu le plus important. Alors pourquoi cette étoile blanche? Effectivement, on l'appelle l'étoile blanche. Encore une planète, quelque chose qui bouge, mais qui ne bouge pas très vite. Alors Saturne aussi. Vous voyez, c'est tout ce qu'on voit bien dans le ciel qui était une planète à l'époque, toujours correspondant à une divinité de la mythologie de ces gens-là. Alors quittons l'Antiquité et on en arrive maintenant à Copernic. Alors à partir de Copernic, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le Soleil est au centre et que tout le monde tourne autour. Puisque le Soleil ne bouge pas, c'est plus une planète, puisqu'il est censé ne pas bouger. On le voit bouger, mais c'est une erreur. En fait, il ne bouge pas. C'est une illusion d'optique. Donc les planètes, il n'y en a plus que 6. Il n'y a plus que Mercure, Vénus, la Terre, puisque la Terre tourne autour du Soleil, donc ça redevient une planète qu'elle n'était pas avant, Mars, Jupiter et Saturne. Donc à partir de Copernic, on va avoir 6 planètes. Donc effectivement, on a descendu d'un cran, on est passé de 7 à 6. Alors qu'est-ce qui va se passer ultérieurement? En 1781, Herschel, qui construit un télescope de sa fabrication, donc on commence à explorer le ciel. Ce qu'on cherche, c'est des comètes à l'époque, puisqu'on a remarqué qu'il y avait des comètes qui venaient régulièrement autour de la Terre. Donc on cherche à les voir quand elles arrivent. Donc on construit des télescopes dans le but de chercher les comètes. Donc Herschel cherche des comètes. Et puis qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre une planète supplémentaire. Il voit un petit point et il comprend que cette planète tourne autour du Soleil. Donc on va passer de 6 à 7 planètes en 1781. Donc ça augmente. Et puis en 1801, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un tout petit point brillant qui bouge dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On savait qu'entre Mars et Jupiter, il n'y avait rien, il y avait un trou. Ce que Piazzi découvre est entre Mars et Jupiter. Il dit, ça y est, j'ai trouvé la planète manquante. Il l'appelle Cérès. Et voilà, une planète de plus, on en est à 8 planètes. Il a découvert la planète manquante entre Mars et Jupiter. Malheureusement, après Cérès, on va en découvrir beaucoup ici. Et on va aussi, et Le Verrier va aussi découvrir Neptune. Alors la découverte de Neptune, ce n'est pas du tout dans un télescope, c'est dans les calculs qu'on la découvre, ce qui fait dire que vraiment c'est extraordinaire d'avoir réussi à découvrir une planète rien que par le calcul. Comment a fait Le Verrier? C'est très simple, il s'est rendu compte, le 19e siècle était la grande époque de la mécanique céleste, donc on calculait la position des planètes. Puis on la calculait avec une très grande précision. Et on s'est rendu compte de quoi? Qu'on n'arrivait pas à calculer la position d'Uranus avec une grande précision. Et Le Verrier dit, tout simplement, parce que le mouvement d'Uranus est perturbé par une autre planète qu'on ne voit pas et qui est au-delà d'Uranus. Donc Le Verrier fait le calcul et il dit, c'est ici que doit se trouver Neptune, cette planète inconnue. Et il demande à un astronome allemand, tout simplement parce que Le Verrier était au plus mal avec les astronomes français, donc il demande à un astronome allemand de faire l'observation et cet astronome, à Berlin, observe Neptune juste à côté de la position que Le Verrier avait prévue. Donc on découvre une nouvelle planète au 19e siècle par le calcul et non pas par hasard en l'observant. Alors qu'est-ce qui va se passer au 19e siècle? Comme je vous l'ai dit, en 1800, on avait 7 planètes. Quand Piazzi découvre le premier astéroïde Cérès, on passe à 8 planètes. Et puis, comme on découvre d'autres astéroïdes qu'on baptise planètes, eh ben, tout simplement, en 1845, on en est à 12 planètes. Et puis, en 1846, découverte de Neptune, on en a 13. Et en 1852, on a 23 planètes, puisqu'on continue à découvrir d'autres astéroïdes. Alors, à ce moment-là, on se dit, oh là là, mais où on va ? Combien il va y en avoir des planètes ? C'est sans fin, ce truc-là. Et puis, on se dit, les astéroïdes, on les appelle petites planètes ou planètes télescopiques, puisqu'on ne peut les voir que dans un télescope. Et on comprend que ce sont des petits objets qui ont des orbites un petit peu irrégulières, pas du tout circulaires autour du Soleil. On dit que ce ne sont pas des planètes. Donc en 1852, on avait 23 planètes et on retombe à 8 planètes. Donc vous voyez que le nombre de planètes varie. Le fait qu'on change aujourd'hui, ça n'a rien d'étonnant. Donc là, vous avez tout simplement les listes de planètes qui sont publiées. Alors vous voyez que les noms changent. Bon, si Jupiter, Saturne, Mars a toujours le même nom, vous voyez que Uranus s'appelle Uranus ou Herschel, que Cérès s'appelle Cérès ou Piazzi, et que les autres peuvent donner le nom de, vous voyez, Neptune, ici, s'appelle Le Verrier. Donc on hésitait entre donner le nom du découvreur ou donner un nom mythologique pour faire comme avant. Et en fait, on en reviendra au nom mythologique. On renonce à donner le nom de Le Verrier à Neptune et de Herschel à Uranus. Par contre, les astéroïdes, les noms sont complètement libres et vous avez toutes sortes de noms. On peut donner n'importe quel nom à un astéroïde. Le découvreur donne le nom qu'il veut, sauf son propre nom. Alors que pour les comètes, on donne son propre nom et pas le nom de quelqu'un d'autre. C'est une règle de l'Union astronomique internationale. Alors, passe le 19e siècle, on arrive au 20e siècle, et puis il y a toujours la quête de la 9e planète, puisqu'on a, on connaît les planètes jusqu'à Uranus, Neptune, est-ce qu'il y en aura une de plus ? Donc la 9e planète, ça devient une recherche. Alors il y a un petit malin qui dit... Puisque Le Verrier a découvert une planète par la déviation gravitationnelle qu'elle donnait sur Uranus, on a découvert Neptune comme ça, je vais regarder qu'est-ce qui peut bien pousser Neptune en dehors du droit chemin. Est-ce qu'il n'y aurait pas une planète qui la perturberait ? Donc il fait des calculs et il dit, il existe une planète au-delà de Neptune qui doit... perturber Neptune, donc je la cherche. Alors, c'est cet astronome-là, il la cherche, et il la cherche pendant très très longtemps, et en 1930, il la découvre. Voilà, il découvre une planète qu'il va baptiser Pluton, et il dit, j'ai découvert la planète qui perturbe Neptune. Alors, comme il croit que Pluton perturbe Neptune, il va lui donner une masse très forte, et en fait, il se trompe. Pluton ne perturbe pas Neptune, Pluton est très petit, et il a découvert Pluton par hasard. Il a fait un calcul, il a dit que ça doit être par là. En fait, il est allé voir assez loin, et à force de fouiller dans le ciel, il a fini par trouver Pluton. Donc, on a découvert une 9e planète. En 1930, on a 9 planètes. Après, les gens vont chercher la 10e planète, évidemment, c'est une quête sans fin. Donc on est content, on a 9 planètes en 1930 et ça va durer longtemps puisque nous avons tous appris qu'il y avait 9 planètes dans le système solaire. En 1992, comme je vous ai dit, on découvre un objet au-delà de Neptune, nouvel objet qu'on baptise Eris et on dit, finalement, il y a 10 planètes. On est en train de refaire la même erreur qu'on a fait avec la découverte des astéroïdes entre Mars et Jupiter. Chaque fois qu'on en découvre un, on va augmenter le nombre de planètes. Alors, évidemment, on va en 2006. Alors, en 2006, l'Union astronomique internationale va se réunir à Prague et le président et plusieurs astronomes sont interrogés par la presse en disant « Mais on en est à combien maintenant qu'on trouve des objets au-delà de Neptune ? Il y a combien de planètes ? Dites-nous » Alors, les gens de l'UAI disent « On en est à 12 planètes, puisqu'il y a Eris, Charon, et puis on va mettre Cérès, finalement, qui est quand même assez grosse. » Et finalement, la définition proposée, c'est « Tout ce qui est rond est une planète. » Arrive l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale, Et puis on fait voter les astronomes, hein, puisque tout ça se fait par des votes internationaux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le président de l'UAI qui avait proposé ça est battu. Les astronomes disent bah non, on n'est pas du tout d'accord avec votre définition. Ça n'a aucun sens de dire c'est rond, c'est une planète. On ne sait pas où on va. Après tout, une goutte d'eau dans l'espace, c'est rond. Ce n'est pas pour ça que c'est une planète. Donc, grande bagarre, polémique. Il y a les tenants de... Alors, ce qui se passe, c'est que si on considère que ce qui est au-delà de Neptune, c'est une nouvelle ceinture d'astéroïdes, et donc ce ne sont pas des planètes, il faut bien penser que Pluton fait partie de cette famille, et donc Pluton est rétrogradé. Donc là, se pose un dilemme. Qu'est-ce qu'on va faire de Pluton? On veut bien admettre que les nouveaux venus ne sont pas des planètes, mais quand même, débaptiser Pluton, que ça fait plus de 60 ans que c'est une planète... Alors, vous comprenez bien que les Américains ne sont pas contents parce que les Anglais ont découvert Uranus, les Français ont découvert Neptune et les Américains ont découvert Pluton. Si on débaptise Pluton, les Américains n'ont plus rien découvert du tout. Donc, ça ne leur plaît pas tellement, ça. En plus de ça, il y a une chose qui est assez extraordinaire, c'est que les Américains ont décidé d'envoyer une sonde spatiale vers Pluton pour explorer Pluton. Donc, ils préparent tout, ils lancent la sonde... Et puis ils demandent de l'argent au Congrès américain pour faire marcher le système. Et le Congrès américain leur dit « Ah ben non, Pluton a été débaptisé, c'est plus une planète, on vous donne plus de sous. » Donc vous voyez que là, il y a une discussion très forte au sujet de Pluton, de savoir ce qui va se passer. Et finalement, eh ben, Pluton est quand même rétrogradé, n'est plus une planète, tout simplement, parce que la définition que l'on donne, c'est qu'une planète est un corps céleste qui est en orbite autour du Soleil. Jusque-là, tout le monde est d'accord, a une masse suffisante pour que sa gravité l'emporte sur les forces de cohésion et le maintienne en équilibre hydrostatique sous une forme presque sphérique. C'est-à-dire qu'il est rond, tout simplement parce que l'intérieur a fondu. Il est suffisamment gros pour fondre et devenir rond. Mais, il y a le petit c qui est très important. Alors là, on a beaucoup discuté pour trouver une phrase qui satisfasse tout le monde. A éliminé tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite proche. C'est un peu filandreux. Moi, j'aurais préféré être au minimum d'énergie, ce qui veut dire être sur une orbite circulaire. Mais, bon, on a discuté, mais ça n'a pas trop plu, parce que c'était un peu compliqué. Donc, ça, c'est un petit peu la même chose, parce que si ça a éliminé tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite proche, ça veut dire que, effectivement, c'est sur une orbite circulaire, il n'y a plus personne autour. Donc, avec cette définition, on ne va retrouver que 8 planètes, effectivement. Donc, c'est cette définition qui est votée à Prague en 2006 par les astronomes comme définition d'une planète. Et c'est vrai que un corps qui est sur une orbite circulaire, eh bien, c'est un corps qui a perdu toute son énergie, qui est sur le minimum d'énergie, sur la trajectoire la plus économique et qui est en général le plus gros puisque tous les autres lui sont tombés dessus. Et c'est effectivement ce qui se passe quand on voit ces 8 planètes. C'est effectivement ce qui se passe. Mais ça n'est pas fini, effectivement, puisqu'il y a encore des astéroïdes qui vont finir par tomber sur les planètes. Alors, on a voulu faire plaisir aux Américains et on a appelé Pluton planète naine. Bon. Donc, tous les corps qui sont ronds et qui ne sont pas dans la définition des planètes, on les appelle planètes naines. Donc, il y a Pluton, Cérès, Charon, Eris et probablement d'autres. Donc ça, c'était une espèce de... Je dirais qu'on a transigé pour que tout le monde soit content et que le mot planète reste quand même pour Pluton. Mais enfin, ça fait... C'était quand même... Ça. Mais bon, cette année, on va avoir une nouvelle Assemblée générale à Rio de Janeiro et on a peur que certains reviennent là-dessus pour essayer de faire revenir Pluton parmi les planètes. Mais ce serait une erreur puisque les définitions qu'on a données là... qui font qu'il n'y a plus que 8 planètes, sont quand même logiques. On a des objets qui sont quand même, qui vont grossir, qui sont ceux qui sont les plus stables, qui ne sont pas des objets qui risquent de tomber sur les autres. Donc la notion de planète comme étant quelque chose de pérenne, c'est quand même plus intéressant que des planètes comme Pluton, qui risquent très bien de heurter Neptune un jour ou l'autre. Cérès, comme tous les astéroïdes, sont déviés par Jupiter et risquent bien de tomber sur Mars ou sur Jupiter, ou sur la Terre. Et Charon, bah c'est pareil, il tourne autour de Pluton. Eris, tout ça, c'est des corps qui, un jour, risquent bien de tomber sur une planète. Donc, la nouvelle classification, c'est quoi? Les planètes... Alors, on en a profité pour essayer de faire le ménage dans les classifications. Les planètes, bah, elles sont 8. Il y a les satellites, il y a toujours les satellites, ça on les garde. Il y a les planètes naines, c'est tout ce qui est rond et qui n'est pas un satellite. Et tous les autres, astéroïdes, comètes, on appelle ça les petits corps du système solaire. Donc on ne fait plus la distinction entre astéroïdes et comètes. Oh ben vous allez me dire quand même, ce n'est pas la même chose. Ben non, mais à force d'observer ces corps, on s'est rendu compte qu'il y avait des astéroïdes qu'on connaissait depuis longtemps, qui tout d'un coup ont eu une chevelure qui a jailli de leur surface et qui sont devenus des comètes. Donc en fait, une comète, c'est un corps qui est un petit peu plus petit que les autres et qui va se rapprocher du Soleil parce qu'il a une forte excentricité. Dans la mesure où les astéroïdes, il y en a qui sont petits, que leurs orbites peuvent se modifier sous l'effet gravitationnel des grosses planètes comme Jupiter, un astéroïde peut se transformer en comète. Et donc, on peut faire une distinction entre comète et astéroïde à un instant donné. On peut dire, ben voilà, tel corps, voilà ces deux corps. Il y en a un, il y a une chevelure, c'est une comète. L'autre, c'est un astéroïde qui n'a pas, bon, qui est inerte. Mais globalement, on les appelle des petits corps du système solaire, tout simplement parce qu'ils peuvent évoluer d'un côté ou de l'autre. Alors maintenant, pour terminer, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir s'il y a une définition naturel, non pas dans l'histoire, puisque là, c'est l'histoire des astronomes qui nous a donné ça. Si on retourne à l'origine du système solaire, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de nébuleuse, on va pas aller très vite là-dessus, on a une nébuleuse initiale qui s'effondre sur elle-même par sa gravitation. Ça s'effondre, c'est le coup du patineur qui étend les bras, qui les rapproche, il tourne plus vite. Donc cette masse qui s'effondre sur elle-même va se mettre à tourner autour de son centre de gravité. Alors, ce qui va se passer, c'est que les chocs font que cette boule va s'aplatir comme un disque. C'est tout simplement les lois de la mécanique qui font que les chocs vont aplatir ce disque qui tourne. Donc, ça s'aplatit. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, toutes ces poussières qui tournent là vont s'agglomérer. Naturellement, soit par électrostatique, vous savez que la poussière colle parce qu'il y a de l'électrostatique, soit parce que c'est devenu assez gros, donc ça a une très faible gravité, mais si un autre grain se met contre eux, ça va augmenter la masse, et à partir du moment où ça devient un petit caillou, ça a une masse suffisante pour retenir les poussières qui vont tomber à la surface. Donc toute cette poussière va avoir tendance à s'agglomérer et à faire des objets de plus en plus gros. Mais tous ces corps de plus en plus gros, bah, tout ça, il reste dans ce plan-là. Donc on comprend très bien qu'un corps qui se fabrique dans le temps va finir par tourner dans ce plan-là et tourner aussi sur une orbite circulaire. On va retrouver ça, puisque à force d'avoir des chocs, il va revenir sur l'orbite de plus faible énergie, sur l'orbite la plus économique, qui est l'orbite circulaire. Et tous les autres vont tourner n'importe comment jusqu'à ce qu'ils tombent sur les plus gros. Donc le nombre de corps tournant autour du Soleil va diminuer, et ceux qui restent à la fin, par définition, les derniers, ce sera les planètes. Alors le système solaire aujourd'hui, ben voilà, vous avez tout simplement le Soleil, ça c'est les planètes intérieures, là, vous avez les astéroïdes et là, vous avez Jupiter. Donc ça, c'est entre le Soleil et Jupiter. Ici, vous avez le Soleil et là, c'est Jupiter. Donc ce que vous avez en rouge là tout autour, c'est notre fameuse ceinture de Kuiper, cette ceinture d'astéroïdes qui est au-delà de Neptune. Ici, vous avez Neptune. Alors ce que vous avez, les petits points bleus, c'est tout simplement des comètes qui, elles, n'arrêtent pas d'aller et revenir entre le Soleil et loin, disons. Alors vous voyez ici, vous avez les astéroïdes, et ce que vous avez, les points rouges qu'on a ici, c'est les astéroïdes qui ont été détournés du droit chemin et qui tombent vers les planètes intérieures. Donc les planètes intérieures absorbent petit à petit les astéroïdes qui nous sont envoyés par Jupiter. Alors les planètes intérieures absorbent les astéroïdes, ça veut dire que de temps en temps, tous les 50 millions d'années, un énorme astéroïde tombe sur la Terre en détruisant toute vie. Bon, on peut espérer que ce n'est pas pour demain. Enfin, d'après nos calculs, puisqu'on a les positions de tous ces astéroïdes, hein, il faut bien penser qu'on connaît la position de tous ces objets. Il y en a plus de 300 000. On connaît toutes ces positions. Ben, dans nos calculs, on n'a rien qui s'approche de la Terre et qui serait dangereux pour l'instant. Voilà, donc le système solaire aujourd'hui, c'est des planètes qui, petit à petit, absorbent tous ces cailloux qui sont souvent des témoins de l'origine du système solaire et qui petit à petit sont absorbés comme ça. Alors, vous voyez, là on a Pluton, donc vous voyez, là vous avez Neptune et là vous avez Pluton. Donc Pluton, il s'éloigne et puis il coupe la trajectoire de Neptune, il passe à l'intérieur et il passe comme ça. Alors actuellement, il y a ce qu'on appelle une résonance, c'est-à-dire que quand il y en a un qui fait deux tours, l'autre fait trois tours, donc ils ne se rencontreront jamais. Voilà, donc on est tranquille pour eux pendant un moment. Malheureusement, ce fait ne va pas durer éternellement. Un jour, ça va se décaler. Et quand ça va se décaler, eh ben Pluton va tomber sur Neptune. Alors vous pouvez voir qu'il y a un autre objet là, qui a une trajectoire circulaire. Alors c'est peut-être une planète en formation. Je dis bien en formation, parce que pour l'instant, il y a encore beaucoup d'objets. Cette planète n'a pas nettoyé tout ce qui est aux alentours de son orbite. Donc voilà, il s'appelle Kaohar, cet astéroïde-là. Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce que c'est une future planète? On ne sait pas. Donc Pluton, comme il ne va peut-être pas survivre pendant très longtemps, ça ne servirait à rien de le garder comme une planète qu'on considère comme des astres pérennes. Alors qu'est-ce qui va se passer par la suite maintenant? Les plus gros corps vont absorber les petits, ça paraît logique. Et effectivement, en général, les planètes, comme je vous ai dit, elles sont circularisées pour toutes sortes de raisons. Elles ont des orbites circulaire autour du Soleil, donc ça, c'est des planètes. Et les petits corps, ils vont... Alors, qu'est-ce qui va se passer à terme? Ils vont tous disparaître, ils vont tous tomber sur les planètes, et à terme, il ne restera plus que les 8 planètes qui auront tout absorbé. Alors, c'est vrai que j'ai mis ici, ou peut-être 7, parce que Mercure, qui a une orbite inclinée de 7 degrés et une excentricité forte, pour l'instant, elle ne recoupe pas d'autres orbites. Mais elle pourrait recouper l'orbite de Vénus. Et donc, Mercure a une petite chance qu'un jour, elle soit absorbée par Vénus, elle tombe sur Vénus. Bon, il faut dire une chose, c'est que le système solaire n'est pas éternel et que d'ici 4 milliards d'années, le Soleil explosera et ce sera terminé. Alors qu'il faut bien dire que pour arriver à seulement 8 planètes, il faudra peut-être plus que 4 milliards d'années. Il y a aussi, alors c'est Poincaré qui était un mathématicien qui a voulu vraiment aller très loin. Donc il a fait le calcul jusqu'à 200 milliards d'années. Alors ça n'a pas beaucoup de sens puisque le Soleil sera mort dans 4 milliards d'années. Mais si on pousse le raisonnement très très loin, les 8 planètes, ou peut-être les 7, elles vont diminuer, il n'y en aura plus qu'une à la fin. Elles vont finir par se rapprocher et il n'y en aura qu'une qui va, ça en fera plus qu'une. Toutes les planètes vont s'écrouler les unes sur les autres et on aura le Soleil qui regardera une planète et ça fera un astre double qui tournera comme ça. Mais attention, c'est une vue de l'esprit puisqu'il faut plusieurs centaines de milliards d'années, ce qui est totalement impossible puisque la durée de vie du Soleil n'est encore que de 4 milliards d'années. Donc vous voyez que c'est pas vraiment pour demain. Voilà, donc en conclusion, vous voyez que la science n'est pas figée, qu'il n'y a rien de définitif dans les définitions, hein, c'est pas et qu'il faut se garder des classifications trop strictes. Hein. Donc c'est vrai que les classifications, c'est bien pour faire de la pédagogie, pour apprendre. Dans les écoles, on est bien obligé de dire il y a les planètes, les satellites, les comètes, les astéroïdes. Alors qu'un astronome, non, il va étudier un corps et il va se rendre compte que ce corps, il est unique. Il n'y en a pas deux pareils. Donc nous, là, on a nos 8 planètes. Vous voyez déjà qu'il y a deux catégories. Il y a les planètes telluriques et les planètes gazeuses qui ne se ressemblent pas du tout et qui pourtant ont des caractéristiques communes suffisantes pour qu'on les appelle planètes. Mais il faut se garder des classifications parce que Pluton, on a dit que c'était une planète et on a eu du mal, on a mis quand même 60 ans à comprendre qu'on avait fait une erreur, que c'était pas du tout une planète. Personne, maintenant, on se dit, oui, on a fait la même erreur qu'au 19e siècle avec les astéroïdes qu'on a au début pris pour des planètes. Dès qu'on a découvert Pluton, qu'on a compris qu'il avait une excentricité particulière, on aurait dû tout de suite dire, non, c'est pas une planète. Si on avait découvert un autre astre comme Pluton, juste après, Pluton était découvert en 1930, si on avait découvert en 1931 ou 32 un autre Pluton, on aurait sans doute compris tout de suite. Mais contrairement au 19e siècle, où il a fallu qu'un ou deux ans avant de découvrir un autre astéroïde, là on a mis plus de 60 ans. Et donc c'est ce qui nous a fait commettre cette erreur et qui a fait une polémique dans les journaux et qui continue d'ailleurs à faire une polémique, surtout dans le milieu aux États-Unis, parce qu'ils sont vraiment un petit peu vexés qu'on leur ait pris leur seule planète. Mais c'est comme ça, c'est la science, c'est comme ça. Voilà, merci. Ben, je vais pouvoir répondre à vos questions.
Voilà, donc à présent, s'il y a des questions, oui, je vous passe le micro.
Et bonjour. Puisque vous avez dit que la définition d'une planète, c'est une orbite presque circulaire après avoir fait le ménage autour d'elle, où classe-t-on parmi les exoplanètes là, énormes qui ont des orbites extrêmement excentriques? Est-ce qu'on les classe en des planètes?
Très bonne question. Vous savez, quand l'Union astronomique internationale s'est prononcée sur cette définition, tout le monde a dit « Attention, on ne s'occupe pas des exoplanètes, ça n'est valable que pour le système solaire, ça n'est pas valable pour les exoplanètes ». Alors là aussi, on fait une mauvaise classification. On appelle ça des planètes extrasolaires. Ce ne sont pas des planètes. Vous voyez ce que c'est qu'une planète. On a bien donné la définition. Quelque chose qui est circulaire, qui est pérenne. Ça, c'est important. Or, toutes les exoplanètes, du moins la majorité des exoplanètes qu'on découvre, ont une excentricité très forte. On a des planètes plus grosses que Jupiter qui ont une excentricité qu'on ne voit pas dans le système solaire. Quand on fait des calculs, on se rend compte que la stabilité de ces systèmes, elle est plus ou moins aléatoire. Donc en fait, il s'agit de systèmes qui ne ressemblent pas au système solaire. Ce ne sont pas vraiment des planètes. Est-ce que ce sont des étoiles éteintes? On ne sait pas. On sait que les étoiles ne sont pas seules, qu'il y a des choses qui tournent autour, que dans de nombreux cas, il doit s'agir de systèmes qui ressemblent au système solaire. Mais dans la majorité des cas, ça n'est pas le cas. Ce sont des systèmes qu'on ne comprend pas, qui ont des excentricités. Les planètes ont des excentricités beaucoup trop fortes pour que ça ressemble à un système comme le système solaire. Donc ça fait partie des inconnus. Qu'est-ce que c'est que ces objets? On ne sait pas, mais on le découvrira bientôt, j'espère.
En fait, il y a déjà, vous avez dit qu'il y a une ceinture d'astéroïdes dans le système solaire. Une ceinture d'astéroïdes, oui, dans le système solaire, et il y en a une, donc Pluton en fait partie. Et pourquoi il n'y aurait pas d'autres planètes après?
Alors, qu'est-ce qui peut se passer au-delà de cette deuxième ceinture d'astéroïdes? Il pourrait y avoir une grosse planète qui soit comme Jupiter par rapport à la première ceinture, qui soit au-delà. Alors, le seul problème, c'est qu'on est dans l'impossibilité totale de l'observer. On n'a que fait les calculs. On s'est rendu compte, on a vu la taille que ça pouvait avoir, la luminosité que ça pouvait avoir. Elle n'est pas observable actuellement. Est-ce qu'elle peut exister? Alors, les avis sont partagés. C'est une planète qui mettrait très très longtemps pour tourner autour du système, autour du Soleil. Est-ce qu'elle aurait eu le temps d'agglomérer suffisamment d'objets pour être suffisamment lourde et faire une vraie planète? Ça, c'est une question, parce qu'elle doit mettre plusieurs milliers d'années pour faire un tour autour du Soleil, alors que nous, on met un an. Donc là, il y a une inconnue. En plus de ça, il peut y avoir des perturbations par les étoiles, parce qu'on va tellement loin, là, maintenant, qu'on va se rapprocher des étoiles. Donc les étoiles, elles sont quand même loin, mais les étoiles, elles bougent, la galaxie tourne. Donc en 4 milliards d'années, ces planètes ont peut-être été détournées du droit chemin, comme je disais, et ont quitté le Soleil, parce qu'il ne leur faudra pas grand-chose pour quitter le système solaire, tellement elles sont loin. Donc ça fait partie des inconnus. Il y a l'étonnant de l'existence de planètes au-delà de cette ceinture d'astéroïdes, et ceux qui disent non, au-delà de cette ceinture, il y a une autre ceinture d'objets qui, eux, tournent vaguement autour du système solaire et sont de temps en temps perturbés par des étoiles et tombent sur le Soleil. Ce sont des comètes à très longue période, ou bien s'évadent tout simplement. Donc, il y a les deux écoles au-delà de cette ceinture d'astéroïdes.
Une question d'un ignorant total. Et hors sujet en plus, quand vous dites que les comètes comportent de la glace, alors qu'elles vont très 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 loin dans des températures effroyablement basses, la question que je pose est celle-ci: est-ce que les corps comme la glace, autrement dit l'eau, quand ils s'en vont à des distances tellement colossales, demeurent, gardent leur nature, si je peux dire? Parce que ça me paraît tout curieux, bêtement, dire c'est de la glace, on revient si loin, et c'est toujours de la glace.
Alors, l'eau fait partie des corps qui sont en abondance dans l'univers. Donc, c'est un peu normal que ces corps lointains, il n'y ait pas beaucoup de roches, mais beaucoup d'eau, puisque l'eau est quand même très, très présente dans l'univers. Que devient la glace ? Bah, quand il fait froid, la glace se conserve très bien. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la glace peut avoir d'autres formes que les cristaux qu'on connaît. Ce n'est pas tellement pour les comètes lointaines qu'on se pose la question, c'est plutôt pour des corps comme Europe, Ganymède, les satellites de Jupiter, qui sont des satellites de glace très gros. Qu'est-ce qui se passe au centre ? Est-ce que l'eau devient liquide ou est-ce que ça devient une glace molle ? Puisqu'il peut y avoir une glace non cristalline qui est beaucoup plus malléable, mais qui n'est pas liquide. Donc effectivement, l'eau peut revêtir des formes particulières. Plutôt, la question se pose plutôt pour les satellites de Jupiter que pour les comètes, où il n'y a pas beaucoup de gravité et où ça peut rester des cristaux de glace comme on les connaît.
En ce qui concerne les corps qui sont qui ont une orbite assez excentrique, est-ce qu'il est possible qu'ils puissent pourquoi pas quitter leur orbite ?
Quitter le système solaire, vous voulez dire ?
Ouais, par exemple pour un astéroïde.
Alors, les corps qui ont une orbite très excentrique, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont été perturbés par un autre corps, ils ont gagné de l'énergie et leur excentricité a augmenté. Alors, il y a quelque chose qu'on connaît bien, c'est les comètes qui passent près de Jupiter. Quand elles passent près de Jupiter, elles gagnent en excentricité tout simplement parce que Jupiter leur transfère de l'énergie. Et en général, un corps qui est très excentrique et dont l'excentricité va augmenter finit par tomber sur le Soleil. Puisque si vous avez une orbite extrêmement excentrique, elle est tellement fine qu'elle passe à l'intérieur du Soleil. Donc on observe effectivement énormément de comètes qui tombent sur le Soleil. Tous les jours, il y a des dizaines de comètes qui tombent sur le Soleil, des toutes petites qu'on ne voit qu'au télescope, mais qui ont une orbite très excentrique. Alors ça peut être soit le Soleil, soit Jupiter. C'est des objets très gros qui vont allonger leur orbite. Alors Jupiter s'en garde quelques-unes, puisqu'on a assisté il y a quelques années à la chute d'une comète sur Jupiter. Disons qu'elle avait une orbite, elle s'était un petit peu satellisée autour de Jupiter, et elle était tellement excentrique que son orbite passait à l'intérieur de Jupiter, et donc elle s'est écrasée dessus. Donc c'est plus ça qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe quand les corps partent très très loin, au-delà de notre fameuse deuxième ceinture d'astéroïdes ? Oui, c'est possible qu'il y en a qui échappent à l'attraction du Soleil, effectivement. Quand elles vont vers le Soleil, elles vont tomber dessus, mais si elles sont perturbées au moment du départ, elles peuvent quitter le système solaire, effectivement. Vous savez tout sur... Je vais faire une interro écrite.
Puisque vous dites qu'il y a des comètes ou des corps qui pourraient quitter le système solaire, il y aurait la même chose dans d'autres systèmes solaires. Donc, ils pourraient passer dans le nôtre des corps venant d'autres systèmes. Est-ce qu'ils pourraient être capturés ou par le nôtre ?
Nous venons d'un autre système solaire. Nous sommes les résidus de l'explosion d'une autre étoile qui n'était pas le Soleil, qui avait même probablement des planètes, et qui a explosé. Et ce sont ces poussières de cette étoile qui nous ont formés. Donc oui, bien entendu, parmi toute cette poussière, la majorité vient de d'autres systèmes. Il y a de la poussière dans toute la galaxie. Quand il y en a un petit peu plus, elle va s'effondrer sur elle-même et ça va tourner très vite, ça va augmenter la masse et tout ce qui va passer à proximité va effectivement être attiré par ce système solaire tel que le nôtre. Absolument, nous sommes formés, ça vient de partout. Pas seulement, nous n'avons pas tout fabriqué ici. Le Soleil fabrique très peu de choses, hein. Nous avons été fabriqués dans d'autres étoiles et pas seulement, nous avons été... tous nos atomes ont été fabriqués dans les supernovées qui ont explosé, dans le milieu interstellaire qui subit le bombardement de rayonnement de la part des étoiles environnantes. Tout ça se fabrique dans toute la galaxie. C'est pas du tout, ça ne se fabrique pas sur place.
pour le plaisir de poser une question peut-être absurde. Quand on observe la vie, les animaux, on peut avoir le sentiment qu'il y a une intelligence qui a conçu tout cela, s'est organisée. Bon, je parle sans aucune... Je suis agnostique personnellement, je n'en sais rien. Est-ce un dieu, des dieux, je ne sais pas. Est-ce que vous avez l'impression, en qualité d'astronome, d'une organisation dans l'univers ou d'une sacrée pagaille?
Ben, quand on étudie les lois de la physique, la gravitation, l'électromagnétisme, tout ça, on se rend compte que si on change les constantes de presque rien, nous disparaissons. Alors, bon, certains disent des univers, il y en a plein, mais il n'y en a qu'un seul où la vie a pu apparaître, puisque quand on voit les lois de la physique, vous changez presque rien. Dans les étoiles, on fabrique que du fer. Bah, si les étoiles étaient très simples, il n'y aurait pas de vie, puisqu'on ne va pas au-delà du fer. Donc, pour avoir fait d'autres atomes, il a vraiment fallu que les choses se compliquent. Donc, c'est vrai, on est ce qu'on appelle dans un univers favorable à la vie. Les lois de la physique sont faites de telle façon qu'elles ont permis l'apparition de la vie. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a une intelligence derrière ? Il y a nous, au moins. Nous, on a une certaine intelligence et on est capable de raisonner là-dessus. Donc, ça veut dire que l'intelligence existe dans l'univers. C'est tout. Nous sommes des morceaux d'univers et nous avons une certaine intelligence. Donc, est-ce que l'univers a une intelligence globalement ? J'en sais rien du tout.
Après l'effondrement du Soleil, restera-t-il suffisamment d'hydrogène pour former une nouvelle étoile ?
Oui, parce que quand le Soleil va s'effondrer, il n'aura dépensé que 10% de son hydrogène. Ça, il faut dire que l'univers n'est pas du tout, c'est pas le développement durable dans l'univers, c'est le gaspillage total. Donc si on est capable, au moment de la fin du Soleil, d'aller touiller un petit peu dans le Soleil, il va redémarrer et il n'explosera pas. Mais en fait, il ne dépense pas beaucoup. Il ne faut pas oublier que tout l'hydrogène qu'il dépense disparaît. C'est une perte de masse. La masse est transformée en énergie. Aucun système ne permettrait que tout l'hydrogène du Soleil se transforme en énergie. Quand il n'y en aurait plus qu'un kilo, on se demande bien comment il ferait pour se transformer en énergie. Donc le système veut que, il faudrait touiller et puis ça ne durerait pas éternellement. Mais c'est plusieurs, je ne sais plus combien de milliers de tonnes par seconde qui sont transformées en énergie, mais c'est colossal. C'est colossal. Mais ça ne durera que 8 milliards d'années et il n'aura pas dépensé beaucoup de son hydrogène.
Je crois que c'est 400 millions de tonnes.
C'est 400 millions de tonnes par seconde. Oui. Transformées en énergie, c'est-à-dire qu'ils disparaissent. Le Soleil maigrit de 400 millions de tonnes à la seconde. Et ça n'a aucune influence sur la gravitation, tellement c'est peu. Mais il faut dire que la Terre, elle grossit de plusieurs milliers de tonnes par jour. Toutes les poussières qui nous tombent dessus, c'est énorme. Mais la masse de la Terre est tellement gigantesque que des milliers de tonnes, c'est rien.
Y a-t-il une dernière question ? Ce sera trop tard.
C'est quoi la notion de temps entre le moment où on voit une comète et le moment où elle va s'écraser sur le Soleil ?
Celle qu'on voit, en général, ne s'écrase pas sur le Soleil. Pourquoi ? Bonne question. Pourquoi toutes celles qui s'écrasent sur le Soleil, et il y en a beaucoup, on ne les voit pas à l'œil nu ? On les voit que dans les télescopes. Il faut dire qu'on n'en voit pas beaucoup à l'œil nu. On en voit une tous les 3-4 ans. Il y en a une en ce moment. Regardez-la, elle s'appelle Louline. Et elle est visible où ça, dans le Sagittaire, non ? Tu sais plus ? Je ne sais pas. Mais enfin, elle est visible en ce moment. Vous cherchez dans les livres, sur Google, vous faites comète Louline et vous trouverez où est-ce qu'elle est. Bon, il faut une paire de jumelles parce qu'elle est... pas plus brillante que la plus faible des étoiles qu'on peut voir à l'œil nu. Mais il y a une comète qui s'approche de la Terre en ce moment, effectivement. C'est le 24 mars qu'elle va passer au plus près, je crois, 23 mars. Mais enfin, elle va passer à 50 millions de kilomètres, hein, vous inquiétez pas. C'est pas... Donc oui, c'est vrai qu'on voit très peu de comètes. La majorité sont toutes petites et passent loin de nous. Donc c'est pour ça que celles qu'on voit, non, pour l'instant, aucune n'est allée dans le Soleil. Mais c'est très rapide, hein, c'est quelques semaines, je pense. Entre celles qu'on voit comme ça, le moment qu'elles tombent sur le Soleil, c'est très très rapide. Elles ont une vitesse très très forte, les comètes, puisqu'elles viennent de très loin, elles s'approchent du Soleil. Troisième loi de Kepler, non, deuxième loi de Kepler, elles accélèrent quand elles approchent du Soleil. Et comme... Ah bah tout à fait, bah, la dernière comète qui est tombée sur la Terre, c'est en 1908, en Sibérie. Il y a une comète qui est tombée sur la Terre, elle ne faisait que 30 mètres de diamètre. En général, c'est 1 km, donc on a eu 30 mètres de diamètre, 1000 km² détruits. Une explosion qui a fait exploser les tympans de la population à 1000 km à la ronde. À Irkoutsk, le train est sorti des rails. Par contre, il n'y a eu aucun mort. Les gens du plus proche village ont été projetés à 10 mètres par le choc et tous leurs tympans ont explosé. Et sur toute la Terre, les sismographes ont enregistré une vibration. Donc c'est la dernière, c'est une comète qui est tombée. Et elle n'est pas arrivée jusqu'au sol, elle a explosé à 30 km d'altitude. Autrement, d'autres comètes ou des petits bouts d'astéroïdes, il y en a qui tombent régulièrement sur Terre. Ah non, tu n'as pas le temps de les voir arriver là. En général, on les observe après, quand ils nous ont ratés. On les voit partir. Mais alors c'est des tout petits morceaux, ça. Alors, on a comme plan de faire l'inventaire de tout ce qui fait, alors, a priori, exhaustif, c'est-à-dire tout ce qui fait plus d'un kilomètre. Donc, on a à peu près. Et on va essayer de descendre à 10 mètres maintenant. Donc, on installe des télescopes automatiques qui photographient le ciel en permanence et qui répertorient tous ces petits cailloux. Parce que 10 mètres, c'est encore dangereux. Et au moins, si ça tombe, qu'on sache où ça va tomber. Heureusement, la Terre est faite à 90% de désert ou de mer. Dans l'océan, il en tombe pas mal. Les Américains avaient mis un satellite en orbite dans les années 60 pour détecter les explosions nucléaires russes. Donc, ils lancent leur satellite qui commence à observer. Deux jours plus tard, ah, une explosion nucléaire. Le lendemain, ah, une explosion nucléaire. Alors, tout le monde s'affole. Puis, ils se rendent compte que c'était des chutes de petits morceaux d'astéroïdes sur Terre. Alors bon, ils ont abandonné, ils se sont dit, bon, on va donner ça aux astronomes qui vont observer les chutes. Donc on a une bonne couverture, on sait qu'il y en a beaucoup. La majorité brûle dans l'atmosphère ou arrive au sol en faisant beaucoup de bruit. Mais vraiment, on occupe une toute petite partie de la surface terrestre et donc ça ne... y a jamais eu d'accident, il n'y a jamais eu de mort. Il y a eu juste une femme qui a été blessée au bras. Mais il n'y a jamais eu de mort pour l'instant. Mais c'est moins dangereux que de se promener en voiture, hein, d'attendre les astéroïdes, je vous le dis tout de suite. Bien qu'il est probable que l'humanité disparaîtra par la chute d'un gros astéroïde. Mais ce n'est pas pour tout de suite. On sera bien fait sauter le caisson avant tout seul, sans avoir besoin d'un astéroïde.
Voilà. Y a-t-il d'autres choses ?
Si on les gros, c'est-à-dire ceux qui font un kilomètre, qui sont très dangereux, on est capable de les détecter plus de 30 ans à l'avance, puisqu'on connaît leur orbite. Si on le détecte 30 ans à l'avance, on peut faire quelque chose. Quoi ? Il y a plusieurs possibilités. Moi, ce que je préconise, c'est d'aller le peindre en blanc. Si on le peint en blanc, il va avoir une réaction vis-à-vis du soleil, parce qu'il ne faut pas oublier que le soleil, le rayonnement solaire, pousse les objets. C'est ce qu'on appelle la pression de radiation solaire. Si on le peint en blanc, la pression va augmenter, puisque ça va être réfléchi, alors que normalement, un astéroïde, c'est noir et absorbe la lumière. Et donc, ça va le dévier sur son orbite, et en 30 ans, ça fait plusieurs milliers de kilomètres. Donc, c'est la méthode la plus simple. On peut mettre une voile solaire aussi. On plante un mât, on fait une voile, une grande voile, comme un voilier. Et puis, on met la voile de façon à dévier, avec le vent solaire, à dévier l'astéroïde. Par contre, l'histoire des missiles, des bombes atomiques et tout ça, il faut oublier, Parce que si on envoie une bombe atomique sur un astéroïde ou une comète, puis qu'on le coupe en trois morceaux, eh bien, il devient trois fois plus dangereux, puisque chaque morceau est dangereux à son tour. Donc ça, le coup de c'est bon pour les films à grand spectacle, mais dans la réalité, il faut appliquer une toute petite force, ou bien un petit réacteur très très faible, qui marche à l'énergie solaire, et qui va, pendant 30 ans, faire une toute petite force, et ça suffit pour... on a besoin de les placer de 10 000 km, c'est tout. Par contre, il faudra bien faire les calculs.
Voilà. Donc, d'ici là, je vous donne... Donc, c'est notre dernière conférence pour le semestre 2009, ici à Mendès-France, mais il y a quelques autres rendez-vous en astronomie. D'abord, le 4 mars, à la Faculté des sciences, ce sera le mercredi après-midi à 14h, il y aura une conférence sur les 50 ans du spatial qui sera présentée par Jacques Villain. Ensuite, ce sera le 3 avril. Il y aura là encore une thématique sur le spatial à Saint-Vrain-Saumont avec le club d'astronomie qui s'appelle Astronomie Nova. Ce sera la conquête spatiale Où irons-nous ? Et le lendemain, le 4 avril, il y aura un café des sciences à 10h sur une thématique de Qu'est-ce que le temps ? Donc ce sera à Saint-Vrain-Saumont, donc début avril, et juste un petit peu avant, fin mars, il y aura la semaine des planétariums, donc ce sera le 18 mars, le 20 mars et le 21 mars, ici à Mendès-France, avec une thématique sur Saturne, l'observation de Saturne et des ateliers sur Saturne. Voilà. Donc voici quelques rendez-vous pour les deux mois à venir en astronomie. Voilà. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée et peut-être à une prochaine fois. De Vénus, tu la mettais plus massive que la Terre dans un
tableau. Ah bon?
Ouais.
Oui, faudrait que je vérifie.
Oh, c'est le jeu de.
C'est pas étonnant.
C'est pas toujours facile à voir comme ça.
Je sais que j'ai confondu un truc parce que j'ai fait des corrections sur l'effet de serre. Je m'étais trompé à un endroit, je l'ai corrigé. Donc j'ai dû confondre deux planètes à un moment ou à un autre. Donc c'est pas impossible que ça. Allez-y.